chapitre 12, où le lecteur assiste à une grande conférence patriotique. Le célèbre M. Merdle devenait chaque jour de plus en plus célèbre. Personne ne pouvait affirmer que ce fameux Merdle eût jamais fait le moindre bien à un de ses semblables, vivant ou mort. Personne ne pouvait affirmer qu'il possédât la moindre faculté d'émettre, au profit de qui que ce fût, le plus petit rayon de lumière pour l'éclairer sur la route du devoir ou du plaisir, de la douleur ou de la joie, du travail ou des délassements, de la réalité ou de l'imagination, en un mot, sur aucun des innombrables sentiers de ce dédale que foulent aux pieds les fils d'Adam. Personne n'avait le moindre motif de supposer que l'argile dont était pétri ce moderne veau d'or ne fut pas l'argile la plus grossière du monde, éclairée par la mèche la plus fameuse, qui ait jamais empêché une lampe humaine de s'éteindre. Mais on savait, ou l'on croyait savoir, qu'il avait amassé d'immenses richesses. Et il n'en fallait pas davantage pour se prosterner à ses pieds avec une servilité plus dégradante et moins exécrable que celle du sauvage abruti qui sort à quatre pattes de son trou pour offrir un sacrifice propitiatoire à la divinité que son âme ignorante adore sous la forme d'une bûche ou d'un reptile. Les grands prêtres du culte étaient moins excusables encore, car ils avaient toujours, dans la présence de M. Merdle, une protestation vivante contre leur bassesse. La multitude adorait de confiance, et l'on sait bien pourquoi, mais ceux qui officiaient à l'autel avaient constamment cet homme sous les yeux. Il s'asseyait à sa table comme M. Merdle assistait à leur fête. Il portait toujours avec lui comme un spectre son cornac, qui semblait dire à ses grands prêtres « Quoi, ce sont là les signes qui vous inspirent tant de confiance et tant de respect ? Cette tête, ce regard, cette façon de parler, ce ton, ces manières, vous êtes les pivots du ministère des circonlocutions chargés de nous gouverner. Lorsqu'une demi-douzaine d'entre vous se prennent aux cheveux, il semble que le monde va périr faute de pouvoir fournir d'autres législateurs. À quoi tient donc votre supériorité ? On ne peut toujours pas dire qu'elle consiste dans une connaissance plus approfondie des âmes lorsqu'on vous voit accepter, flatter et prôner un être pareil. Ou si vous êtes capable de bien juger les signes que je ne manque jamais de vous montrer, chaque fois qu'ils se présentent parmi vous, encore moins peut-on attribuer votre supériorité à votre honnêteté. C'étaient là deux questions embarrassantes qui suivaient M. Merdle partout où il allait et qu'on avait pris le parti d'étouffer faute de pouvoir y répondre. En l'absence de Mme Merdle, M. Merdle continuait à tenir sa maison ouverte afin que les flots de visiteurs puissent y aller et venir à leur gré. Quelques-uns de ces derniers ne se faisaient pas prier pour prendre possession de l'établissement. Trois ou quatre grandes dames, pleines de vivacité et de distinction, se disaient de temps en temps « Allons donc dîner chez ce cher Merdle jeudi prochain. Qui inviterons-nous ? » Ce cher Merdle recevait des ordres en conséquence, se mettait lourdement à table et, le repas terminé, se promenait lugubrement dans ses salons, sans qu'on fît autrement attention à sa présence, si ce n'est peut-être pour le regarder comme un trouble-fête. Le maître d'hôtel, ce cauchemar du grand Merdle, ne se relâchait en rien de sa sévérité. Il surveillait les dîners donnés en l'absence de la poitrine, comme il surveillait, quand elle était là, les repas que présidait cet ornement de la société. Et son regard de basilic continuait à faire trembler M. Merdle. C'était un homme terrible que ce maître d'hôtel. Jamais il n'aurait souffert qu'on servît une once d'argenterie ou une bouteille de vin de moins que l'ordinaire. Il n'aurait pas permis à M. Merdle de donner un dîner qui ne fût digne d'un maître d'hôtel comme lui. Avant tout, dans l'ordonnance d'un repas, il songeait à sa propre réputation. S'il plaisait aux convives de manger ce qu'on leur servait, ils n'y trouvaient pas à redire. Mais on ne leur servait que pour maintenir son rang. Tandis qu'il se tenait debout auprès du buffet, il semblait dire « J'ai bien voulu accepter l'office de contempler ce qui est là devant moi, mais rien de moins. » S'il regrettait la poitrine qui embellissait ordinairement la salle à manger de M. Merdle aux heures des repas, c'est parce qu'il se voyait par là privé temporairement, par des circonstances inévitables, d'une partie importante des ressources de son service. Exactement comme il eût regretté un surtout ou un magnifique bassin à glace pour frapper le champagne qu'on aurait envoyé chez le banquier de la famille. M. Merdle envoya des invitations pour un dîner des mollusques. Lord Decimus devait en être, ainsi que M. Tenace Mollusque et l'aimable petit mollusque attaché au secrétariat du ministère des Circonlocutions. Le cœur de ces mollusques parlementaires, qui parcourent les provinces de la clôture de la chambre pour aller chanter les louanges de leur chef, devait également être représenté à ce festin politique. Cela fit beaucoup de bruit. M. Merdle allait s'allier au parti des mollusques. Quelques délicates petites négociations avaient été entamées entre lui et le noble Decimus. C'est le jeune et aimable mollusque qui avait été l'entremetteur. M. Merdle s'était décidé à donner à la puissante coterie des mollusques l'appui de sa grande probité et de sa grande fortune. Les mauvaises langues flairaient bien là-dessous quelques maquignonnages politiques. Peut-être parce qu'il était bien connu de tout le monde que, si le diable en personne était un gaillard à se laisser mettre le grappin dessus, les mollusques ne manqueraient pas de l'accaparer, pour le bien du pays, cela va sans dire, pour le bien du pays. Madame Merdle avait écrit à son magnifique époux, à moins d'être un vil hérétique, on ne pouvait nier que ce fameux banquier, couvert d'une triple couche de dorure, ne valut à lui seul tous les hommes d'argent qui ont existé chez nous depuis le temps de Whittington. Elle avait donc écrit de Rome à son époux, lettre sur lettre, pour lui rappeler que c'était le moment ou jamais de caser Edmund Sparkler. Elle lui démontrait sans relâche qu'il y avait urgence et que ce serait encore, sous un autre rapport, un grand avantage en ce moment d'obtenir immédiatement quelque bon emploi. Sur cet article important, le style épistolaire de Madame Merdle ne connaissait qu'un seul mode, le mode impératif, un seul temps, le présent. Madame Merdle mit tant d'insistance à expédier à M. Merdle une foule de verbes ainsi conjugués que le sang lourd et les longs parements des manches du banquier en étaient tout agités. C'est dans cet état d'agitation que M. Merdle, contemplant à la dérobée les souliers de son maître d'hôtel sans oser regarder en face ce terrible personnage, lui avait signifié son intention de donner un dîner distingué. Pas un dîner très nombreux, mais un dîner très distingué. Le maître d'hôtel avait eu l'obligeance de déclarer qu'il n'avait aucune objection à donner un coup d'œil pour qu'on fît le plus de dépenses possibles dans ce genre, et le jour de ce mémorable dîner était arrivé. M. Merdle se tenait donc dans un de ses salons, le dos au feu, attendant l'arrivée de ses hôtes importants. Il prenait rarement la liberté de se mettre le dos au feu, à moins d'être seul. En présence de son maître d'hôtel, jamais il n'aurait osé prendre une pareille licence. En ce moment, par exemple, si ce despotique serviteur eût ouvert la porte, son maître se serait empressé de s'arrêter lui-même par le poignet, comme un policeman dans l'exercice de ses fonctions, et de se promener devant la cheminée ou de rôder humblement autour des meubles pompeux du salon. Les ombres malicieuses qui jouaient à cache-cache dans le feu, sortant de leur cachette quand il montrait sa flamme, et se hâtant d'y retourner, quand la flamme elle-même rentrait dans le foyer, étaient les seuls témoins de la liberté qu'il avait prise de se chauffer à son aise. C'était déjà bien assez de témoins comme cela, peut-être trop, à en juger par son air. Le journal du soir qu'il tenait à la main ne parlait que de M. Merdle, sa hardiesse merveilleuse, sa merveilleuse fortune, sa merveilleuse banque, servaient à alimenter ce soir-là la feuille louangeuse. La merveilleuse banque, dont il était à la fois l'inventeur, l'organisateur et le directeur, était le dernier des nombreux miracles financiers accomplis par l'heureux capitaliste. Malgré tout, M. Merdle se montrait si modeste au milieu de ses brillants exploits qu'il ressemblait bien plus à un homme dont le domicile est sous le coup d'une saisie qu'à un colosse commercial ouvrant, comme celui de Rhodes, ses deux jambes devant sa propre cheminée pour laisser passer les petits caboteurs qui l'attendaient à dîner. Les voici justement qui commencent à entrer dans le port. L'aimable jeune mollusque du secrétariat est le premier arrivé, mais l'honneur du barreau le rejoint sur l'escalier. L'honneur du barreau, armé selon sa coutume de son binocle et de son salut à l'usage de messieurs les jurés, fut enchanté de voir l'aimable jeune mollusque. Il opina qu'on allait siéger in banco, comme nous disons, nous autres avocats, pour plaider une cause spéciale. En vérité, demanda l'aimable jeune mollusque, qui se nommait Ferdinand, comment cela? « Allons, répondit en souriant l'honneur du barreau. Si vous ne savez rien, vous, comment voulez-vous que je sache quelque chose ? Nourri dans le sérail, vous en connaissez les détours. Moi, je ne suis qu'un humble spectateur, mêlé à la foule qui vous regarde faire. » L'honneur du barreau savait être badin ou grave, selon la pratique à laquelle il s'adressait. Avec Ferdinand Mollusque, il fut aussi léger qu'un fil de la Vierge. L'honneur du barreau était également humble et modeste, à sa manière, quand il voulait. L'honneur du barreau était un homme d'infiniment de ressources et des plus variés. Mais on reconnaissait le même mannequin sous tous les costumes de ses rôles différents. Chaque individu à qui il avait affaire devenait à ses yeux un juré, et il se croyait tenu en conscience de gagner ce juré si c'était possible. Notre illustre hôte et ami, continua l'honneur du barreau, notre brillante étoile commerciale, va s'embarquer dans la politique. S'y embarquer ? Mais voilà déjà quelque temps qu'il siège dans la Chambre des communes, vous savez, répliqua Ferdinand Mollusque. C'est juste, reprit l'honneur du barreau, avec le petit rire de bonne société qu'il tenait en réserve pour les membres du grand jury, et qui ne ressemblait en rien au gros rire comique à l'usage d'un jury de petits boutiquiers. Oui, il y a déjà quelque temps qu'il siège dans la Chambre des communes. Mais jusqu'à présent, notre étoile a été une étoile un peu errante, un peu vacillante, hein ? Un homme ordinaire, en entendant ce « un » engageant, n'aurait pu s'empêcher de faire une réponse affirmative. Mais Ferdinand se contenta de lancer à l'honneur du barreau un coup d'œil plein de malice et ne répondit pas du tout. « très bien, je m'en doutais », continua l'honneur du barreau, hochant la tête, car il ne se laissait pas dérouter pour si peu. Voilà pourquoi j'ai parlé de siéger in banco pour entendre plaider un argument spécial. En d'autres termes, je veux dire qu'il s'agit d'une cause grave et solennelle, et selon l'expression du capitaine MacArthur, les juges sont réunis. Spectacle terrible. Vous voyez que nous autres avocats, nous sommes assez généreux pour citer les paroles de l'illustre capitaine, quoiqu'il ne nous épargne pas. Mais c'est égal, je puis arquer d'un aveu du capitaine lui-même, continua avec un petit balancement de tête badin, l'honneur du barreau qui avait toujours l'air de se railler lui-même de la meilleure grâce du monde, lorsqu'il s'exprimait en termes du métier, je puis arquer d'un aveu du capitaine lui-même que la loi a du moins l'intention d'être impartiale. En effet, cet aimable personnage ne dit-il pas « Si je commets une erreur dans ma citation, mon savant ami, ici il toucha l'épaule de son interlocuteur avec son binocle, geste de comédien de bon ton, voudra bien la relever. Puisqu'aux yeux de la loi les voleurs sont égaux, quel que soit leur crédit, leurs titres sociaux, j'espère me trouver en bonne compagnie, au pied de la potence où doit finir ma vie. » Ce quatrain les amena jusqu'au salon où M. Merdle se tenait le dos au feu. M. Merdle fut tellement abasourdi de voir entrer l'honneur du barreau avec de telles paroles à la bouche que l'avocat dut lui expliquer que c'était une citation du poète Gay, qui ne compte pas assurément parmi les autorités de Westminster Hall, ajouta-t-il. Mais dont un homme aussi universellement pratique que M. Merdle ne saurait manquer d'apprécier le mérite. M. Merdle eut l'air de vouloir dire quelque chose, mais il eut l'air presque aussitôt de ne plus vouloir rien dire du tout, ce qu'il fit. Cet intervalle de silence donna à la crème de l'épiscopat le temps de se faire annoncer. La crème de l'épiscopat fit son entrée d'un air modeste, mais d'un pas ferme et rapide, comme s'il prenait ses bottes de 7 lieues, afin de faire le tour du monde, pour aller s'assurer que la statistique universelle de l'état des âmes ne présentait que des résultats satisfaisants. Monsieur l'évêque ne soupçonnait pas du tout qu'il y eût aucun motif particulier à la réunion où Monsieur Merdle l'avait invité. C'était visible, rien qu'à considérer sa physionomie. Il était dispos, jeune, gai, affable, doux, mais surtout si innocent. C'était vraiment surprenant. L'honneur du barreau se glissa auprès de lui et lui fit subir un interrogatoire des plus polis, relativement à la santé de Madame l'évêque. Madame l'évêque avait joué de malheur, elle avait attrapé un léger rhume à la dernière confirmation. Mais à cela près, elle se portait bien. Le jeune monsieur l'évêque jouissait d'une bonne santé. Pour le moment, il habitait avec sa jeune femme et sa petite famille, sa cure du district des Bonnes Âmes. Les représentants du cœur des mollusques commencèrent ensuite à arriver. Puis vint le médecin de M. Myrtle. L'honneur du barreau, qui avait un coup d'œil et coup de lorgnon pour chacun des convives qu'on annonçait, quelle que fût la personne avec laquelle il causa ou la conversation engagée, trouvait toujours un procédé très habile pour s'approcher des nouveaux venus sans que personne s'aperçût de cette manœuvre et pour amener chaque gentleman du jury à parler du sujet qui lui était le plus familier. Avec certains membres du cœur politique, il se moqua de ce député qui s'était réveillé en sursaut l'autre nuit à la chambre et qui s'était dépêché de quitter le couloir pour aller voter de travers. Avec d'autres, il déplora tristement la peine qu'on avait à réprimer cet esprit d'innovation qui poussait le public à s'intéresser d'une façon si indiscrète aux affaires publiques et aux finances de l'État. Il eut un mot à dire au médecin à propos de la santé générale. Il eut aussi un renseignement à lui demander à propos d'un de ses confrères, d'une érudition incontestable et de manière distinguée, mais ces qualités-là étaient également l'apanage de certains autres professeurs de l'art de guérir, petit salut à l'adresse de son juré, qu'il avait eu à discuter comme témoin de sa partie adverse dans une cause récente et auquel il avait fait avouer, en le pressant de ses questions, qu'il était un des apôtres de ce nouveau genre de traitement que l'honneur du barreau trouvait. Oui, n'est-ce pas ? C'est ce que pensait l'honneur du barreau, qui avait espéré que son ami le docteur le confirmerait dans cette opinion. Sans prétendre décider une question sur laquelle les médecins eux-mêmes n'étaient pas d'accord, l'honneur du barreau croyait vraiment à ne regarder la chose qu'au point de vue du sens commun, et laissant de côté ce qu'on nomme l'examen légal, que cette nouvelle méthode thérapeutique était, oserait-il en présence d'une si grande autorité médicale, dire une stupidité ? Ah ! Encouragé par ce sourire, il n'hésitait pas à lui donner ce nom, et il se sentait l'esprit soulagé. Monsieur Tenace Mollusque, qui, semblable au célèbre ami du docteur Johnson, ne possédait qu'une seule idée, et encore c'était une idée fausse, venait aussi d'arriver. Ce personnage éminent et M. Myrtle, qui occupaient les deux extrémités d'un canapé jaune en face du feu, sans se regarder et sans échanger une parole, ruminant chacun de leur côté, ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux deux vaches qui paissaient dans le tableau de Gip, accrochées vis-à-vis. Mais voici Lord Decimus lui-même, le maître d'hôtel qui jusqu'alors s'était borné à une branche de ses fonctions ordinaires, celle de regarder, plutôt d'un air de défi que de bienvenue, les convives qui arrivaient, daigna se déranger au point de monter l'escalier avec lui pour l'annoncer. Comme Lord Decimus était un pair d'une supériorité écrasante, un jeune et modeste député, l'avant-dernier des petits goujons parlementaires qui était venu mordre à l'hameçon des mollusques, qu'on avait invité à ce dîner afin de célébrer sa capture, ferma les yeux humblement lorsque Milord fit son entrée. Lord Decimus, néanmoins, déclara qu'il était charmé de voir le jeune député. Il ne fut pas moins charmé de voir M. Myrtle, la crème de l'épiscopat, le docteur, l'honneur du barreau, M. Tenace Mollusque, le cœur parlementaire et Ferdinand, son secrétaire intime. Le fait est que Lord Decimus, bien qu'il fût un des plus grands hommes que la terre ait porté, ne brillait pas par l'amabilité de ses manières. Mais Ferdinand l'avait piloté de manière qu'il se trouvait dans la nécessité de dire quelque chose de gracieux à tous ceux qu'il pourrait rencontrer chez M. Myrtle et de se montrer ravi de les voir. Après avoir achevé cet exploit de vivacité et de condescendance, Milord se disposa à compléter le paysage de Gip et posa pour la troisième vache du groupe. L'honneur du barreau, sûr d'avoir gagné les autres jurés, sentit qu'il lui fallait maintenant mettre le grappin sur le chef du jury et se glissa discrètement vers lui, binocle en main. L'honneur du barreau commença à parler du temps comme du sujet le plus capable de faire fondre la réserve officielle de son interlocuteur. L'honneur du barreau dit que l'on avait affirmé, tout le monde entend affirmer ces choses-là, sans qu'on puisse jamais savoir par qui et pourquoi, qu'il n'y aurait pas de fruits d'espalier cette année. Lord Decimus n'avait pas ouï dire que ses pêches eussent souffert de la température, mais il craignait, d'après le rapport de ses gens, de ne pas avoir de pommes. Pas de pommes ? L'honneur du barreau ne pouvait en revenir. Cela lui faisait beaucoup de peine. Le fait est qu'en réalité, il ne se souciait pas le moins du monde qu'il restât seulement un pépin sur la surface de la terre. Mais cela ne l'empêcha pas de se montrer douloureusement affecté de cette nouvelle. Et à quoi donc, Lord Decimus? Car nous autres avocats, nous sommes vraiment d'ennuyeuses gens. Il nous faut toujours des renseignements sur tout, sans que nous sachions seulement s'ils pourront jamais nous servir. À quoi donc, Lord Decimus, attribuait-il cette disette de pommes? Lord Decimus ne put se charger d'expliquer ce mystère. Cette réponse aurait arrêté tout court un questionneur moins intrépide. Mais l'honneur du barreau s'attaqua à Lord Decimus avec une nouvelle ardeur. « Et les poires, milord ?» Longtemps après que l'honneur du barreau fut devenu procureur général, on lui faisait honneur de cette question comme d'un coup de maître. Elle donna l'occasion à Lord Decimus de se rappeler un poirier qui poussait autrefois dans le jardin de la matrone chez laquelle il avait demeuré durant son séjour au collège d'Eton. C'est sur cet arbre qu'avait fleuri à toujours la seule plaisanterie qu'il eût jamais faite de sa vie. Une plaisanterie entre nous assez saugrenue, espèce de calembour par approche entre les poires d'Eton et les pères parlementaires. Mais comme c'était une plaisanterie un peu âpre, dont Lord Decimus ne pensait pas que son auditeur pût saisir jamais tout le sel, sans avoir fait au préalable une connaissance intime et suivie avec l'arbre en question, l'histoire commençait avant l'existence de cet arbre, puis elle le retrouvait en plein hiver, lui faisait traverser la succession des saisons, pousser des feuilles, porter des fleurs et produire des fruits. Elle voyait mûrir ses fruits, en un mot, cultivait l'arbre d'une façon si diligente et si minutieuse, avant de se glisser par la croisée de la chambre à coucher pour voler les poires, que bien des auditeurs bénissaient le ciel de ce que le poirier avait été planté et greffé avant l'époque où Lord Decimus était venu au monde, sans quoi il risquait de perdre cette excellente plaisanterie. L'intérêt que les pommes avaient inspiré à l'honneur du barreau fut bien faible, comparé à l'émotion profonde avec laquelle il suivit les phases de ce récit, depuis le moment où Lord Decimus commença, d'un ton solennel, par dire « En parlant de poire, vous me rappelez un certain poirier ?» Jusqu'à la spirituelle conclusion de cette histoire, c'est ainsi qu'à travers les nombreuses péripéties de la vie, nous passons des poires d'Eton aux pères politiques. Il s'y intéressa si vivement qu'il fut obligé de descendre avec Lord Decimus jusqu'à la salle à manger du rez-de-chaussée et de s'asseoir auprès de lui à table afin d'entendre la fin de l'anecdote. Après cela, l'honneur du barreau, certain d'avoir gagné le chef du jury, se crut le droit de dîner maintenant de bon appétit. Le repas d'ailleurs était bien fait pour donner de l'appétit à qui en aurait manqué. Les plats les plus délicats, somptueusement préparés et somptueusement servis, les fruits les plus beaux, les vins les plus exquis, des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, des porcelaines et des cristaux magnifiques, d'innombrables objets destinés à flatter le goût, l'odorat et la vue, étaient réunis pour le plus grand plaisir des convives. Quel homme prodigieux que ce Myrtle! Quel grand homme! Quel maître homme! Quel ensemble de mérites! Combien de qualités gracieuses! En un mot, quel homme riche! Selon sa coutume, il mangea ses misérables 36 sous de nourriture de la façon indigeste qui lui était habituelle et demeura aussi taciturne que l'a jamais été un homme célèbre. Heureusement que Lord Decimus était une de ces sublimités qui n'exigent pas qu'on leur parle, attendu qu'elles ont toujours assez à faire de s'occuper à contempler leur propre grandeur. Heureusement pour le jeune député modeste qui put tenir les yeux ouverts assez longtemps à la fois pour voir ce qu'il mangeait, mais qui, dès que Lord Decimus parlait, la refermait bien vite. L'aimable Ferdinand et l'honneur du barreau firent les frais de la conversation. L'évêque aurait aussi été excessivement agréable si son innocence ne l'avait pas tant gêné. Aussi fut-il bientôt distancé. Lorsqu'on faisait la moindre allusion détournée au but de ce dîner politique, il n'y était pas du tout. Les affaires mondaines étaient au-dessus de sa portée. Il n'y comprenait absolument rien. Cette particularité devint surtout remarquable lorsque le barreau dit en passant qu'il avait appris avec plaisir que nous allions bientôt enrôler dans la bonne cause la solide et modeste sagacité, pas une de ces sagacités démonstratives ni vaniteuses, mais franchement solides et pratiques, de notre jeune ami, M. Spankla. Ferdinand Mollusque se mit à rire et répondit que c'était bien possible. Un vote est un vote, et ce n'est jamais à dédaigner. Le baron regretta de ne pas avoir aperçu notre jeune ami Spankla aujourd'hui, M. Myrtle. « Il est en voyage avec Mme Myrtle, » répondit ce gentleman, sortant lentement d'une longue rêverie, pendant laquelle il s'était amusé à faire glisser une longue cuillère dans sa manche. « Il n'est pas indispensable qu'il soit sur les lieux. » Le nom magique de Myrtle, ajouta le barreau avec son petit salut, à l'adresse de messieurs les jurés, suffit bien, sans aucun doute. « Mais oui, je le crois, » répliqua M. Myrtle, remettant la cuillère sur sa table et se cachant assez gauchement les mains sous les parements de ses manches. « Je crois que les gens qui sont là-bas, dans mes intérêts, ne feront aucune difficulté. » « Des électeurs modèles !» fit l'honneur du barreau. « Je suis heureux de voir qu'ils aient votre approbation, » remarqua M. Myrtle. « Et les électeurs de ces deux autres endroits ?» poursuivit l'honneur du barreau, dont l'œil plein de vivacité se tourna avec un léger clignement vers son magnifique voisin. « Nos autres avocats, nous sommes si curieux, si indiscrets, il faut toujours que nous furetions partout, à ramasser 1000 petits bouts de renseignements, au risque d'encombrer notre mémoire comme une boutique de bric-à-brac, sans savoir seulement si nous trouverons jamais un coin où ils puissent nous servir. Les électeurs de ces deux autres endroits, M. Myrtle, cède-t-il avec une louable ardeur à la puissante et absorbante influence de votre activité hardie et de votre renommée ? Ces petits ruisseaux courent-ils d'eux-mêmes se jeter, comme sous l'influence d'une attraction physique, dans le vaste fleuve qui poursuit sa route merveilleuse, enrichissant le pays qu'ils traversent? Vont-ils y mêler le tribut de leurs eaux avec tant d'empressement qu'on puisse dès à présent, avec aisance et facilité, calculer et prédire le cours qu'ils suivront? M. Myrtle, un peu troublé par l'éloquence du barreau, contempla vaguement la salière la plus voisine, puis répondit en hésitant, « Ils savent parfaitement, monsieur, ce qu'ils doivent à la société. Ils nommeront les personnes que je leur désignerai. » « Je suis charmé, » dit le barreau, « tout à fait charmé de cette bonne nouvelle. » Les trois endroits en question étaient trois petits trous pourris de notre île, contenant trois petits collèges électoraux de traverse, ignorants, ivrognes et sales, qui étaient venus se faire consacrer dans la poche de M. Myrtle. Ferdinand Mollusque se mit à rire avec son aisance accoutumée et dit d'un ton enjoué que c'était là de jolis gaillards. La crème de l'épiscopat, qui se promenait mentalement dans les sentiers de la paix, était tout à fait absorbée dans le troisième ciel, bien loin des choses de ce monde. « À propos, » demanda Lord Decimus, jetant les yeux autour de la table, « dites-moi donc ce que c'est que cette histoire d'un gentleman qui, après avoir été longtemps enfermé dans une prison pour dette, s'est trouvé tout à coup d'une riche famille et possesseur d'un gros héritage. Je n'entends parler que de cela. Je ne vois dans les journaux que des allusions à cette aventure. Savez-vous quelque chose là-dessus, Ferdinand ?»« Je ne sais qu'une chose, » répondit Ferdinand, « c'est que ce gentleman a donné au ministère auquel j'ai l'honneur d'être attaché. » Le sémillant petit mollusque prononça cette phrase d'un ton enjoué, comme qui dirait « Nous savons ce que veulent dire ces formules-là, mais il ne faut pas en perdre la tradition. » « Une peine infinie et un tintouin du diable. »« Tintouin ?» répéta Lord Decimus, après un silence majestueux et réfléchissant sur la valeur de ce mot, d'un air majestueux qui obligea le député modeste à fermer les yeux de toutes ses forces. « Tintouin ?»« Beaucoup d'ennui et d'embarras, » dit M. Tenace Mollusque d'un ton de dignité offensé. « Et de quel genre d'affaires s'occupait ce monsieur ?» demanda Lord Decimus. « Quel était le sujet de ce tintouin, Ferdinand ?»« Oh, pour ça, c'est une bonne histoire. Je n'en connais pas de meilleur dans son genre. Ce monsieur Dorrit, il se nomme Dorrit, avait passé un contrat avec nous, des siècles avant que la bonne fée sortît de la banque pour lui livrer son héritage. » Et il n'avait pas tenu ses engagements. Il était associé dans une maison pour l'exploitation en grand de quelque chose, je ne sais trop quoi, des spiritueux ou des boutons de guêtre, du vin ou du cirage, de la laine ou du gruau, du porc ou des agrafes, du fer ou de la mélasse, des souliers ou toute autre fourniture pour les troupes ou pour la marine ou pour quelqu'un. Cette maison fit faillite, et, en notre qualité de créancier, nous avons poursuivi M. Dorrit avec toutes les formalités voulues. Lorsque la bonne fée lui apparut enfin, et que son avoué se présenta pour nous payer, ma foi, nous en avions par-dessus les yeux de signatures, de renvois, de contre-signatures, etc., si bien qu'il nous fallut 6 mois pour savoir comment accepter son argent et lui donner quittance. C'est là, voyez-vous, un des plus beaux triomphes administratifs que je sache, ajouta ce joli garçon de Ferdinand, riant de bon cœur. Jamais vous n'avez vu remplir une telle masse d'imprimés. L'avoué de notre débiteur en était lui-même confondu. « Ah ça, me dit-il un jour, si au lieu de vouloir vous payer 2 ou 3 000 livres sterling, je venais vous en demander le remboursement, vous ne feriez pas de difficulté. » « Vous avez raison, mon vieux, lui ai-je répondu, et à l'avenir, vous pourrez prendre notre défense quand on nous accusera de n'avoir rien à faire. » L'aimable secrétaire intime termina en riant encore de tout son cœur. C'était un charmant garçon, en vérité, que ce jeune mollusque, et il avait des manières on ne peut plus engageantes. Monsieur Tenace Mollusque n'envisageait pas la question d'une façon aussi superficielle. Il en voulait à Monsieur Dorrit d'avoir dérangé le ministère en s'obstinant à payer ce qu'il devait, et il regardait la chose comme une infraction aux règles établies, la dette étant si ancienne. Mais il faut dire que Monsieur Tenace Mollusque était un homme boutonné jusqu'au menton, et par conséquent un homme de poids. Tout homme boutonné jusqu'au menton est considéré comme un homme profond. Est-ce parce qu'il y a dans cette faculté de se déboutonner qu'il se réserve d'exercer ou non quelque chose qui en impose à l'humanité en général? Ou bien ne se figure-t-on pas que la sagesse se condense et s'accroît lorsqu'elle est si solidement renfermée dans une double rangée de boutons, sans quoi elle risque de s'évaporer? Je l'ignore. Mais toujours est-il que l'homme toujours boutonné jusqu'au menton est celui qui donne la plus haute idée de son importance. M. Tenace Mollusque aurait perdu une bonne moitié de sa valeur courante si son habit n'avait pas été constamment boutonné jusqu'à sa cravate blanche. « Oserais-je demander, reprit Lord Decimus, si ce M. Darrit ou Dorrit a des enfants ?» Comme personne n'ouvrait la bouche, l'hôte répondit « Il a 2 filles, milord. »« Oh, vous le connaissez donc ?» Madame Myrtle le connaît. M. Sparkler aussi. Bref, je crois même que l'aîné de ces demoiselles a fait une vive impression sur Edward Sparkler. Il est très impressionnable, et il me semble que la conquête... M. Myrtle se tut et contempla la nappe. C'est ce qu'il faisait presque toujours lorsqu'il savait qu'on l'écoutait et qu'on le regardait. L'honneur du barreau fut enchanté d'apprendre que la famille Myrtle et cette autre famille se connaissaient déjà. Il demanda à la crème de l'épiscopat, qui se trouvait en face de lui, si ce n'était pas là une sorte de démonstration, par analogie, de ce principe physique en vertu duquel les semblables se cherchent. Similis simili gaudet. Il considérait cette tendance qui fait que la richesse attire la richesse comme un phénomène des plus curieux et des plus intéressants, un phénomène qui se rattache vaguement aux propriétés de l'aimant et aux lois de la gravitation. La crème de l'épiscopat, qui était redescendu du ciel, doucement sur son petit dada, lorsqu'on avait abordé ce sujet de conversation, abondant dans le sens de son interlocuteur. Il remarqua qu'il importait à la société qu'une personne placée dans une position aussi difficile que celle d'un homme qui se trouve tout à coup investi des moyens de faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal à la société, vint, pour ainsi dire, se fondre dans une puissance supérieure, d'une nature plus légitime et plus gigantesque, dont l'influence, comme par exemple celle de l'ami à la table duquel nous nous trouvons, était exercée au profit des meilleurs intérêts de la société. De cette façon, au lieu de 2 flammes rivales, une grande et une petite, jetant chacune de leur côté une clarté trouble et incertaine, nous obtenions une lumière égale et adoucie, dont les rayons bienfaisants répandaient sur le pays une chaleur uniforme. L'évêque parut fort satisfait de sa façon de poser la question, et ne le lâcha pas de longtemps. L'honneur du barreau, ne voulant pas perdre les bonnes grâces d'un juré influent, parut jusqu'au bout se tenir au pied du révérend pour recevoir de sa main le pain salutaire de ses préceptes épiscopaux. Le dîner et le dessert ayant duré 3 heures, le député modeste avait eu le temps de se refroidir à l'ombre de Lord Decimus, plus vite qu'il ne s'était réchauffé, à goûter les vins et les mets, et ne fit que frissonner tout le temps. Lord Decimus, semblable à une tour élevée qui se dresse au centre d'un pays plat, paraissait projeter son ombre d'un côté à l'autre de la table, cachant la lumière à l'honorable membre, glaçant l'honorable membre jusque dans la moelle des os, lui donnant une lugubre idée des distances sociales. Lorsque Milord invita cet infortuné voyageur, égaré dans ces régions inconnues, à prendre un verre de vin avec lui, il entoura les pas chancelants du malheureux de la plus triste des ombres. Et quand il ajouta « À votre santé, monsieur », l'autre ne vit plus à l'horizon que désert et solitude. Enfin, Lord Decimus, sa demi-tasse à la main, se mit à flâner devant les tableaux et on commença à se demander quand il cesserait sa promenade pour permettre au menu fretin de monter au salon, chose impossible tant que leur noble chef ne leur en aurait pas donné l'exemple. Au bout d'une dizaine de minutes, après avoir plusieurs fois fait mine de déployer ses ailes, sans réussir à s'envoler, le grand homme prit son essor vers l'étage supérieur. Il s'éleva alors une difficulté qui se renouvelle chaque fois que l'on donne un dîner, afin de réunir deux personnes qui ont à s'entretenir d'une affaire importante. Tout le monde, excepté l'évêque qui n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait, savait parfaitement que ce repas avait été organisé pour fournir à Lord Decimus et à M. Merdle l'occasion de causer ensemble pendant 5 minutes. L'occasion élaborée avec tant de peine et de soin était arrivée, et à partir de ce moment, il sembla que toutes les ressources de l'esprit humain ne pourraient aboutir à faire seulement entrer les deux parties intéressées dans le même salon. M. Merdle et son noble convive s'obstinaient à errer sur deux extrémités opposées du paysage. C'est en vain que l'aimable Ferdinand amenait Lord Decimus à vouloir admirer les chevaux de bronze contre lesquels s'appuyait M. Merdle. Au même instant, M. Merdle s'esquivait et recommençait sa course errante. C'est en vain qu'il amenait ensuite M. Merdle du côté de Lord Decimus, sous prétexte de lui faire raconter l'histoire de ces vases de Dresde, uniques dans leur genre. Lord Decimus s'empressait de s'esquiver et de recommencer sa course errante à son tour, au moment où son cousin venait de pousser son partenaire au but désiré. « Avez-vous jamais rien vu de pareil ?» demanda Ferdinand à l'honneur du barreau, après avoir subi une vingtaine d'échecs. « Bien des fois, » répondit l'avocat. « À moins que je ne bloque l'un d'eux dans un coin désigné d'avance, tandis que vous y bloquerez l'autre, » ajouta Ferdinand, « c'est une affaire manquée. »« Eh bien, j'y consens. Je vais bloquer Merdle si vous voulez, mais je ne me charge pas de Milord. » Ferdinand se mit à rire malgré sa déconfiture. « Diantre soit deux !» s'écria-t-il en consultant sa montre. « Je voudrais bien m'en aller. Pourquoi diable ne peuvent-ils pas s'aborder? Ils savent aussi bien l'un que l'autre ce qu'ils veulent. Regardez-les donc !» Les deux diplomates se tenaient toujours aux extrémités opposées du grand salon, chacun d'eux essayant de ne pas songer à l'autre. Feinte aussi ridicule et aussi transparente que si on avait lu la véritable pensée écrite à la craie sur le dos de leur habit. La crème de l'épiscopat, qui tout à l'heure encore causait avec Ferdinand et l'honneur du barreau, mais que son innocence avait empêché de prendre part à la fin de leur conversation, se rapprochait justement de Lord Decimus pour entrer en conversation avec lui. « Il faut que je prie le médecin de Merdle de s'assurer de lui et de me l'amener, » dit Ferdinand, tandis que de mon côté, je mettrai la main sur mon illustre parent pour l'entraîner de gré ou de force à la conférence. « Puisque vous m'avez fait l'honneur de solliciter mon assistance, » dit l'honneur du barreau avec son sourire le plus rusé, « je me mets avec beaucoup de plaisir à votre disposition. Je ne crois pas qu'un homme seul puisse suffire à cette entreprise. Mais si vous vous chargez d'acculer dans le dernier salon où il paraît si profondément occupé, je me charge d'amener mon cher Merdle auprès de lui sans lui laisser le moyen de s'éclipser. « Convenu, » dit Ferdinand. « Convenu, » répéta l'honneur du barreau. Ce fut un merveilleux et imposant spectacle que de voir l'honneur du barreau balançant gentiment son binocle au bout d'un ruban noir et saluant plus gentiment encore tout un peuple de jurés, arriver par le plus grand des hasards auprès du millionnaire et saisir cette occasion pour lui parler d'une petite difficulté à propos de laquelle il désirait avoir l'opinion d'un homme aussi pratique, aussi éclairé que M. Merdle. Sur ce, il prit le bras de cet homme éclairé et l'emmena doucement vers le salon voisin. Un banquier que nous nommerons A.B. avance une somme considérable, que nous nommerons 15 000 livres sterling, à un client de l'honneur du barreau, que nous nommerons PQ. Comme on se rapprochait de Lord Decimus, l'avocat serra le bras de M. Merdle. En garantie du remboursement de cette somme prêtée à PQ, que nous nommerons une veuve, on a déposé entre les mains d'Abbé les titres de propriété d'un bien fonds, que nous nommerons Blinkit Durtles. Or, voici ce qu'il s'agit de savoir. Le fils de PQ, déjà plus que majeur, et que nous nommerons XY, avait sur les forêts de Blinkit Durtles certains droits d'abattage et de... Mais c'est vraiment impardonnable. En présence de Lord Decimus, obliger notre hôte à écouter une ennuyeuse question de droit, c'était vraiment impardonnable. Il reprendrait l'entretien une autre fois. L'honneur du barreau déclara qu'il se sentait tout confus et qu'il ne dirait pas un mot de plus de cette affaire. Monsieur l'évêque serait peut-être assez bon pour lui accorder quelques minutes d'entretien. Il venait de déposer M. Merdle sur une causeuse, à côté de Lord Decimus, et la conférence allait s'ouvrir. C'était le moment ou jamais. Les autres convives, émus et intéressés, sauf l'évêque, qui continuait à ne pas avoir la moindre idée de ce qui se passait, formèrent un groupe autour de la cheminée du salon voisin et feignirent de causer d'une foule de choses insignifiantes, tandis que les choses et la pensée de chacun se tournaient en secret vers les deux plénipotentiaires isolés. Les membres du chœur parlementaire paraissaient fort agités. Peut-être craignaient-ils qu'on ne disposât de quelques bonnes sinécures qu'ils regardaient comme leur propriété. L'évêque était le seul invité qui conserva assez de sang-froid pour soutenir une conversation suivie. Il s'entretint avec le célèbre médecin au sujet des maux de gorge auxquels étaient sujets les jeunes membres du clergé officiant et lui demanda le meilleur moyen de parer à cette espèce d'épidémie cléricale. Le célèbre docteur, en thèse générale, fut d'avis que le meilleur moyen était d'obliger les jeunes ministres à apprendre à lire avant de faire profession de lire en public. L'évêque lui demanda d'un air de doute si c'était bien là son opinion. Le médecin, bien décidément, lui répondit qu'il en était sûr. Cependant, Ferdinand était le seul des invités qui voltigea en éclaireur sur les flancs de la troupe des causeurs. Se tenant à peu près à mi-chemin entre le groupe et les deux diplomates, comme si Lord Decimus eût été en train de faire quelque opération chirurgicale à M. Merdle, ou que M. Merdle fût occupé à rendre le même service à son noble convive, et qu'on pût à tout moment l'appeler pour le pansement. En effet, au bout d'un quart d'heure, Lord Decimus appela Ferdinand, et l'aimable secrétaire intime prit place à la conférence, qui dura encore 5 minutes. Alors le cœur parlementaire put enfin respirer, car Lord Decimus se leva pour prendre congé. Piloté par Ferdinand, il fit tout ce qu'il put pour se rendre de plus en plus populaire et se mit à distribuer de la façon la plus brillante des poignées de main à toute la société. Il alla même jusqu'à dire à l'honneur du barreau « J'espère que je ne vous ai pas trop suffoqué avec mes poires et mes pères. » Celle d'Eton, Milord, ou celle du Parlement ? Riposta l'avocat, montrant clairement qu'il avait parfaitement compris le calembour et insinuant en même temps d'une manière délicate qu'il se rappellerait jusqu'à la fin de ses jours cette spirituelle plaisanterie. Toute l'importance renfermée dans l'habit boutonné de M. Tenace Mollusque prit ensuite congé. Ferdinand ne tarda pas non plus à s'éloigner pour aller à l'opéra. Plusieurs convives moins notables restèrent encore quelque temps, mariant à des tables de boules leurs petits verres à liqueur dont le pied humide s'y imprimait en anneaux collants. Ils espéraient que M. Merdle finirait par dire quelque chose, mais le millionnaire, selon sa coutume, erra d'une façon insouciante et apathique d'un salon à l'autre sans desserrer les dents. Le lendemain ou le surlendemain, les journaux annoncèrent à toute la ville qu'Edward Sparkler, Esquire, beau-fils de M. Merdle, ce banquier d'une renommée universelle, devenait un des lords du ministère des circonlocutions. Et on proclama pour l'édification des fidèles que cette admirable nomination était un hommage rendu par l'aimable et gracieux Decimus à cet intérêt commercial qui doit toujours, dans un grand pays commercial, etc., le tout suivi d'une fanfare triomphante de trompettes ministérielles. Alors, forte de cet hommage respectueux du gouvernement, la merveilleuse banque et les autres merveilleuses entreprises du grand Merdle ne firent que hausser et prospérer à la bourse. Une foule de badauds en vinrent jusqu'à visiter Harley Street, Cavendish Square, rien que pour admirer la maison qu'habitait le veau d'or. Et lorsqu'ils apercevaient le maître d'hôtel, se tenant sur le pas de la porte, dans ces moments de condescendance, les badauds s'écriaient « A-t-il l'air riche ?» et se demandaient combien d'argent ils devaient avoir de placé dans la merveilleuse banque. Mais s'ils avaient mieux connu ce respectable représentant de la vengeresse Némésis, au lieu de s'adresser à cette question, ils auraient pu fixer tout de suite, avec la plus grande précision, le chiffre du placement en question. Chapitre 13. Les progrès d'une épidémie. Une épidémie morale est au moins aussi difficile à arrêter qu'une épidémie physique. Une maladie de ce genre s'étend avec la même rapidité que la peste. La contagion, une fois qu'elle a fait quelques progrès, n'épargne aucune profession, aucun rang. Elle s'empare de gens qui jouissaient de la santé la plus robuste et se développe dans des tempéraments qui semblaient à l'abri de ses atteintes. Ce sont là des faits aussi clairement démontrés par l'expérience qu'il est démontré que l'homme a besoin d'air pour vivre. Le plus grand bienfait que l'on pourrait rendre à l'humanité, ce serait de saisir et de séquestrer, je ne dis pas qu'il faille les étouffer sans autre forme de procès, avant que l'infection puisse se communiquer, les esprits gangrenés dont la faiblesse ou la perversité propagent ces terribles fléaux. De même qu'un vaste incendie gronde et se fait entendre à une grande distance, de même la flamme sacrée sur laquelle les puissants mollusques venaient de jeter de l'huile donna encore plus de retentissement aux échos qui redisaient le nom de Myrtle. Ce nom sortait de toutes les bouches pour entrer dans toutes les oreilles. Il n'y avait pas, il n'y avait jamais eu, il n'y aurait jamais un homme comme M. Myrtle. Personne, nous l'avons déjà vu, ne savait ce qu'il avait fait pour mériter ce renom. Mais tout le monde savait que c'était le personnage le plus illustre que la terre eût porté. Les locataires de la cour du cœur saignant, qui ne possédaient pas un sou qui ne fût dépensé d'avance, s'intéressaient à M. Myrtle tout autant que les habitués de la bourse. Mme Plornish, qui tenait maintenant un petit magasin d'épicerie et autres objets d'utilité générale, dans une bonne petite boutique à l'extrémité la plus fashionable de cour, avec Maggie et le vieux petit bonhomme de père Noddy pour garçon de boutique, ne parlait guère que de M. Myrtle à ses pratiques. M. Plornish, qui s'était associé avec un petit entrepreneur du voisinage, affirmait, truelle en main, sur les échafaudages ou les toits où il travaillait, qu'on lui avait dit que M. Myrtle était le seul individu, voyez-vous, capable de nous faire obtenir ce que nous désirons tous, voyez-vous, et de nous mettre à notre aise, chacun chez nous. On se disait, à voix basse, que M. Baptiste, seul et unique locataire des Plornish, avait l'intention de placer dans les entreprises infaillibles de M. Myrtle les économies que ses habitudes frugales lui permettaient d'amasser. Les dames de la cour du cœur saignant, lorsqu'elles venaient chercher leurs onces de thé ou leurs quintaux de cancan, donnaient à entendre à Mme Plornish, comme quoi, madame, elle savait par leur cousine Marianne, qui travaillait dans la couture, que Mme Myrtle avait assez de robes pour remplir 3 diligences. Qu'on serait bien embarrassé pour trouver n'importe où, madame, une plus belle femme. Quant à son busque, madame, on dirait que c'est du marbre. Comme quoi, madame, c'était son fils d'un premier mariage, à qui on venait de donner une place dans le gouvernement. Comme quoi, son premier mari avait été général. Il avait marché contre l'ennemi, couronné par la victoire, s'il fallait en croire le bruit général. Comme quoi, on racontait que M. Myrtle avait répondu en propres termes au ministre que, si on pouvait s'arranger pour lui céder tout le gouvernement, il l'aurait accepté sans espoir de profit, mais qu'il ne pouvait le prendre à perte. Quoi qu'il n'eût pas à craindre, madame, qu'il pût y perdre grand-chose, car on pouvait dire sans mentir qu'il marchait sur l'or. Comme quoi, pourtant, il est bien à regretter qu'on ne se soit pas arrangé pour que M. Myrtle se décidât à s'en charger. Car il n'y avait que lui et les gens comme lui pour savoir combien le pain et la viande avaient augmenté, et il n'y avait que lui et les gens comme lui pour faire baisser le prix de ses denrées. La fièvre d'enthousiasme faisait de tels ravages dans la cour du cœur saignant que les visites même de M. Panks, venant toucher ses loyers hebdomadaires, ne calmaient pas les malades. Seulement, la maladie prenait alors une forme assez singulière, et poussait ceux qui en étaient infectés à trouver des excuses et des consolations inconcevables rien que dans le nom magique de Myrtle. « Allons, disait M. Pinks à un retardataire, payons, et vivement. »« Je n'ai pas d'argent, M. Pinks, répondait le retardataire. « Je vous dis la vérité toute pure. Je vous assure qu'il n'y a pas seulement 5 pence dans la maison. » « Ça ne peut pas aller comme ça, vous savez, » ripostait M. Pinks. « Vous ne supposez pas que nous puissions nous contenter de ça, n'est-ce pas ?» Le retardataire reconnaissait avec un « non, monsieur » découragé qu'il n'entretenait aucune espérance de ce genre. « Mon propriétaire ne va pas se contenter de ça, vous savez, » poursuivait M. Pinks. « Ce n'est pas pour ça qu'il m'envoie ici. Allons, payez !» Le retardataire répondait « Ah, monsieur Pinks, si j'étais ce riche gentleman dont tout le monde parle, si je m'appelais Myrtle, monsieur, je vous aurais bientôt payé avec beaucoup de plaisir encore. » Les dialogues à propos des loyers avaient presque toujours lieu sur le seuil de la porte ou dans les allées, en présence de plusieurs cœurs saignants qui prenaient un très vif intérêt. Ils accueillaient toujours une allusion de ce genre par un murmure approbateur, comme s'il voyait là un argument irréfutable. Et le retardataire, quelque décontenancé qu'il eût été auparavant, ne manquait jamais de se ranimer un peu en faisant cette réponse. « Si j'étais Monsieur Myrtle, monsieur, vous n'auriez pas à vous plaindre de moi. »« Non, non, soyez-en sûr, » poursuivait le retardataire en hochant la tête. « Je vous paierai si vite, Monsieur Pinks, que vous n'auriez pas même besoin de me demander de l'argent. » Que répondre à cela ? Chacun trouvait qu'on ne pouvait pas mieux dire et que cela valait quittance ou peu s'en faut. M. Pinks se trouvait donc réduit à prendre note de ce retard en disant « Allons, vous recevrez la visite de l'huissier et on vous mettra dehors, voilà tout. Qu'est-ce que vous avez besoin de me parler de M. Myrtle ? Vous n'êtes pas M. Myrtle, ni moi non plus. » « Non, monsieur, avouait le locataire, plût à Dieu que vous le fussiez, monsieur. Vous seriez plus coulant avec nous si vous étiez monsieur Myrtle, poursuivait le locataire avec une nouvelle animation, et cela n'en vaudrait que mieux pour tout le monde, pour nous comme pour vous, monsieur. Vous ne seriez pas obligé de nous tourmenter et de vous tourmenter vous-même par la même occasion. Vous seriez plus tranquille et vous laisseriez les autres tranquilles si vous étiez monsieur Myrtle. Monsieur Pinks, que ces compliments indirects avaient pour effet de rendre tout penaud, ne résistait jamais à cet assaut. Il ne savait plus que se mordre les ongles et se diriger en reniflant vers le retardataire le plus voisin. Le cœur se réunissait alors autour du débiteur que le facteur de M. Casbé venait d'abandonner, et les rumeurs les plus extravagantes sur le chiffre de l'argent comptant que possédait M. Myrtle circulaient parmi eux à leur grande délectation. Après une de ces nombreuses défaites que signalait un de ses nombreux jours de recette, M. Pinks, ayant achevé sa tournée, se dirigea, son calepin sous le bras, vers le domicile de Mme Pleurniche. La visite de M. Pinks n'avait pas un but intéressé, c'était une simple visite de politesse. La journée avait été fatigante et il éprouvait le besoin de se remonter un peu. Il entretenait maintenant des relations très amicales avec la famille Pleurniche. Il venait souvent se reposer chez eux en pareille circonstance et payer son tribut de souvenirs à Mademoiselle Dorit. L'arrière-boutique de Madame Pleurniche avait été décorée sous sa propre direction et figurait du côté du magasin une petite fiction qui réjouissait on ne peut plus le cœur de cette dame. L'invention poétique dont on avait embelli le petit salon consistait dans une peinture à fresque représentant l'extérieur d'une chaumière, l'artiste ayant conservé, de façon à produire autant d'effets que le permettaient leurs dimensions disproportionnées, la porte et la croisée de la chambre. Les soleils et les roses trémières fleurissaient à foison sur cette demeure rustique, tandis qu'une colonne d'épaisse fumée qui s'échappait de la cheminée annonçait qu'on faisait bonne chère à l'intérieur et peut-être aussi que le ramoneur n'avait pas passé par là depuis longtemps. On voyait sur le seuil un chien fidèle qui s'apprêtait à mordre les mollets de l'inoffensif visiteur. Un pigeonnier circulaire enveloppé d'un nuage de pigeons s'élevait derrière la haie de clôture du jardin. Sur la porte, lorsqu'elle était fermée, on voyait le simulacre d'une plaque de cuivre avec cette inscription « L'heureuse chaumière, T et M Pleurniche ». Les deux initiales représentaient la raison sociale représentée par les époux Pleurniche. Jamais la poésie, Jamais l'art n'a réussi à charmer l'imagination autant que leur réunion dans cette chaumière pour rire charmait la digne Madame Pleurniche. Peu lui importait que Pleurniche eut l'habitude de s'y appuyer en fumant sa pipe aux heures de repos, que son chapeau engouffrât le pigeonnier et tous les pigeons, que son dos cachât la maison, que ses mains enfoncées dans ses poches déracinassent le jardin fleuri et ravageassent la campagne adjacente. Aux yeux de Madame Pleurniche, la chaumière n'en était pas moins une ravissante demeure, un merveilleux trompe-l'œil. Peu lui importait que le nez de M. Pleurniche fût à quelques pouces au-dessus du niveau de la croisée du second étage. C'était une véritable pastorale pour Madame Pleurniche, une renaissance de l'âge d'or, que de rentrer dans la boutique après l'heure de la fermeture et d'entendre le vieux Naudy roucouler ses bergerades. Et certes, si cette célèbre époque mythologique vient jamais à renaître, ou même si elle n'a jamais existé, il est permis de douter qu'elle pût fournir beaucoup de filles qui admirassent leur père aussi cordialement que cette pauvre femme. Avertie par la sonnette de la boutique de l'arrivée d'un visiteur, Madame Pleurniche sortit de l'heureuse chaumière pour voir qui c'était. « J'avais deviné que c'était vous, Monsieur Pinks, dit-elle, car c'est votre jour, n'est-ce pas ? Voici père, vous voyez, qui arrive au bruit de la sonnette pour servir la pratique, vif et alerte comme un jeune garçon de boutique qu'il est. A-t-il bonne mine, hein ? Père est plus heureux de vous voir que si vous étiez une pratique, Monsieur Pinks, car il aime bien faire sa petite Cosette. Et quand la Cosette roule sur Mlle Dorite, ça lui fait doublement plaisir. Mais jamais père n'a été en voix comme maintenant, poursuivit Madame Pleurniche avec des roulades dans sa propre voix, tant la bonne femme était heureuse et fière. Il nous a donné Tircis hier soir, et d'une telle façon que Pleurniche s'est levé pour lui adresser ce discours de l'autre côté de la table. Jean-Édouard Naudy, qu'il dit, jamais je ne vous ai entendu rossignoler aussi bien que vous venez de rossignoler ce soir. N'est-ce pas bien agréable, Monsieur Pinks ? Qu'en dites-vous ? Monsieur Pinks, qui avait adressé au vieillard son ronflement le plus amical, fit une réponse affirmative et demanda en passant si ce joyeux petit gaillard d'Altro était rentré. Madame Pleurniche répondit « Non, pas encore. » Et cependant, en partant pour le West End, où il est allé livrer de l'ouvrage, il nous avait dit qu'il serait revenu pour le thé. Puis, en bonne hôtesse, Madame Pleurniche invita M. Pinks à pénétrer dans l'heureuse chaumière, où il rencontra l'aîné des jeunes Pleurniche qui arrivait de l'école. Ayant fait subir un examen amical à ce jeune étudiant, il apprit que les grands, qui écrivaient déjà en moyenne et qui en étaient à la lettre M, avaient eu en classe ce jour-là, pour exemple, les mots « Myrtle, million ». À propos de millions, dit Pinks, comment vont les affaires, Madame Pleurniche ? Mais ça marche, monsieur, ça marche. Je n'ai pas à me plaindre, répliqua Madame Pleurniche. Cher père, vous qui avez tant de goût, seriez-vous assez bon pour aller arranger un peu la montre avant que nous prenions le thé ? Jean-Édouard Naudy, enchanté du compliment, s'éloigna au petit trot pour exécuter cette commission. Madame Pleurniche, qui tremblait d'entrer dans aucun détail pécuniaire devant le vieux gentleman, de peur qu'au moindre aveu de sa part, il ne se crût obligé d'honneur à s'enfuir et à rentrer au workhouse, se trouva libre de faire en son absence des confidences à M. Pinks. « Il est très vrai que le commerce marche comme sur des roulettes, » reprit Madame Pleurniche baissant la voix, « car nous avons une nombreuse clientèle, et sans le crédit, monsieur, tout irait bien. » Cet inconvénient économique dont souffraient la plupart des gens qui avaient des rapports mercantiles avec les locataires de la cour du cœur saignant était une grosse pierre d'achoppement pour le commerce de Madame Pleurniche. Lorsque M. Dorit avait lancé cette dame dans le débit des denrées coloniales, les cœurs saignants avaient témoigné une ferme résolution de la soutenir dans son commerce. Ils y avaient mis une louable émulation qui faisait honneur à la nature humaine. Reconnaissant qu'une femme qui vivait depuis si longtemps parmi et comme eux avait droit à leur appui, ils s'étaient empressés de lui donner leur pratique et ils avaient juré de ne protéger aucun établissement rival. Animés par ces nobles sentiments, ils allaient même jusqu'à faire des extras en achetant divers petits articles d'épicerie dont ils étaient habitués à se passer, se disant les uns aux autres, pour justifier ces dépenses de luxe, que, s'il tendait un peu la corde, c'était pour rendre service à une voisine, ou plutôt à une amie. Et si on ne sacrifiait pas pour une voisine ou une amie, pour qui donc se sacrifierait-on? Ainsi patronné, le commerce de Madame Pleurniche devint plus florissant, et les marchandises au magasin disparurent avec une rapidité extrême. Bref, si les cœurs saignants avaient payé, leur protégé se serait trouvé dans une situation très prospère. Mais comme il se bornait à prendre tout à crédit, les profits réalisés jusqu'à ce jour ne figuraient pas encore dans les livres de la maison Pleurniche. M. Panks, à cet exposé de la situation financière de Mme Pleurniche, sentait les mèches de sa chevelure rebelle se dresser sur sa tête. Il avait tout l'air d'un véritable hérisson lorsque le vieux M. Naudy, rentrant dans la chaumière d'un air mystérieux, les pria de venir voir la mine étrange de M. Baptiste, qui semblait avoir rencontré quelqu'un ou quelque chose qui lui avait fait peur. Tous trois gagnèrent la boutique et, regardant par la croisée, virent en effet M. Baptiste, pâle et agité, exécuter des évolutions assez singulières. D'abord, on le vit se cacher en haut des marches du petit escalier qui conduisait à la cour, regardant à droite et à gauche dans la rue, la tête prudemment collée à côté de la porte du magasin. Après un examen inquiet, il quitta sa retraite et remonta rapidement la rue comme s'il s'en allait tout de bon. Puis il se retourna soudain et redescendit la rue du même pas et en faisant la même feinte. Après avoir fait à peu près autant de pas pour descendre la rue que pour la monter, il traversa la chaussée et disparut. Le but de cette dernière manœuvre ne fut révélé aux spectateurs qu'au moment où Cavaletto, en paraissant une seconde fois en haut de l'escalier, entra tout à coup dans la boutique. Il était clair qu'il avait fait un grand détour jusqu'à l'autre entrée de la cour, c'est-à-dire jusqu'au côté où se trouvait la fabrique Deuss et Clennam, qu'il avait traversé au galop pour rentrer furtivement. Il était tout essoufflé, ce qui n'avait rien d'étonnant, et son cœur semblait aller plus vite que la petite sonnette qui s'agitait et tintait au haut de la porte à claire-voie qu'il venait de refermer à la hâte. « Hola, mon vieux !» s'écria M. Panks. « Quoi donc, Altro ? Qu'est-ce que vous avez ?» M. Baptiste, ou Signor Cavaletto, comprenait maintenant l'anglais aussi bien que M. Panks lui-même et ne le parlait pas trop mal. Cela n'empêcha pas Mme Pleurniche, qui tirait une vanité bien pardonnable de ce talent polyglotte qui faisait presque d'elle une Italienne, de s'interposer comme interprète. « Lui demandez savoir, expliqua Mme Pleurniche, ce que vous avez. « Entrons dans l'heureuse chaumière, padrona, » répondit Cavaletto, imprimant un air très mystérieux à son geste favori. « Entrons là. » Mme Pleurniche était fière de ce titre de padrona, qui, à ses yeux, signifiait moins maîtresse de maison que maîtresse de langue italienne. Elle accéda de suite au désir de M. Baptiste, et tout le monde rentra dans la chaumière. Lui espérez, vous pas effrayé, dit alors Mme Pleurniche, interprétant d'une façon nouvelle les paroles de M. Panks, car elle improvisait les variantes avec une facilité extrême. Quoi donc être arrivé à vous, par la padrone? J'ai vu quelqu'un, répondit Baptiste. Je l'ai rincontrato. Lui, qui? Un mauvais homme, un très mauvais homme. J'espérais ne plus jamais le voir. « Comment vous savoir lui mauvais ?» demanda l'interprète. « Ça ne fait rien, padrone. Je ne le sais que trop, ça suffit. »« Lui avoir vu vous ?» continua la padrone. « Non, je l'espère, je ne crois pas. » Il dit, interpréta avec une condescendance pleine de douceur Mme Pleurniche, qui se retourna pour adresser la parole à son père et à M. Panks, qu'il vient de rencontrer un méchant homme. Mais il espère que le méchant homme ne l'a pas vu. « Et pourquoi ?» continua-t-elle, employant de nouveau la langue italienne, « Pourquoi vous espérez, lui, avoir pas vu vous ?»« Très cher padrona, » répliqua le petit étranger qu'elle avait protégé avec une bienveillance si délicate, « ne me faites pas cette question, je vous en prie. Encore une fois, ça ne fait rien. J'ai peur de cet homme. Je souhaite qu'il ne me voie pas. Je souhaite qu'il ne me reconnaisse jamais. Jamais !» Assez là-dessus, belle padrona, n'en parlons plus. Ce sujet de conversation déplaisait tellement à Cavaletto et mettait tellement en déroute sa gaieté habituelle que Mme Pleurniche n'insista pas. d'autant plus qu'il y avait déjà quelque temps que le thé bouillait au coin du feu. Mais si elle s'abstint d'adresser ses nouvelles questions à son locataire, elle n'en fut ni moins intriguée, ni moins curieuse pour cela. M. Pinks, tout aussi surpris que son hôtesse, respirait depuis l'entrée du petit Italien, à la façon d'une locomotive essoufflée qui aurait eu à faire remonter une colline assez roide à un convoi trop chargé. Maggie, mieux vêtue qu'autrefois, mais toujours fidèle à ses monstrueux bonnets, se tenait au second plan, la bouche béante et les yeux écarquillés, sans cesser d'être aussi écarlate lorsqu'il n'exista plus aucun motif d'ébahissement. Cependant, on passa sur cet incident, bien que tout le monde parût y songer encore, surtout les deux jeunes pleurniches qui consommèrent d'une façon lugubre leur part du festin nocturne. À quoi bon manger des tartines de pain et de beurre lorsqu'il était plus que probable que le méchant homme qui avait effrayé leur ami Cavaletto ne tarderait pas à venir les manger eux-mêmes. M. Baptiste commença peu à peu à s'égayer, mais il ne quitta pas un seul instant le siège où il s'était installé derrière la porte et tout contre la fenêtre, bien que ce ne fût pas là sa place habituelle. Chaque fois que la petite sonnette se mettait à carillonner, il se levait d'un bond pour jeter au dehors un regard furtif, tenant à la main un coin de rideau et se cachant le visage avec le reste. On voyait qu'il n'était pas du tout certain que l'homme qu'il craignait ne lui pas suivi, avec la sûreté de flair d'air d'un limier de race, malgré tous les circuits et les détours qu'il avait faits. L'entrée de deux ou trois pratiques et l'arrivée de M. Pleurniche, qui se présentèrent à divers intervalles, entretinrent suffisamment les alarmes de M. Baptiste pour empêcher l'attention de la société d'oublier cet épisode. On avait fini de prendre le thé, les enfants étaient couchés et Mme Pleurniche cherchait un moyen adroit et respectueux pour obliger M. Naudy à leur chanter Chloé, lorsque la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, elle annonçait la visite de M. Clennam. L'associé de Daniel Doyce s'était attardé sur ses livres de contes et sa correspondance, car les antichambres du ministère des circonlocutions dévoraient dans le jour une grande partie de son temps. En outre et surtout, il était abattu et songeait avec inquiétude à l'incident survenu tout récemment chez sa mère. Il paraissait triste et fatigué. Il souffrait, en effet, de la fatigue et de l'isolement. Néanmoins, en rentrant chez lui, au sortir de son bureau, il s'était détourné un peu de son chemin pour annoncer aux habitants de l'heureuse chaumière qu'il avait reçu une seconde lettre de Mademoiselle Dorit. La sensation produite par cette nouvelle détourna de Cavaletto l'attention générale. Maggie, qui avait immédiatement pris place au premier plan, paraissait prête à dévorer les nouvelles de sa petite mère, à la fois par les oreilles, le nez, la bouche, et même par les yeux, si ses yeux n'avaient pas été remplis de larmes. Elle fut surtout enchantée lorsque Clennam l'assura qu'il y avait à Rome des hôpitaux où les malades étaient fort bien traités. M. Pinks gagna de plus en plus dans l'estime générale en raison du souvenir spécial dont l'avait honoré dans sa lettre Mademoiselle Dorit. En voyant tout le monde content et vivement intéressé, Clennam fut amplement récompensé de la peine qu'il avait prise. « Mais vous êtes fatigué, monsieur. Laissez-moi vous faire une tasse de thé, » dit Madame Pleurniche, « si vous ne dédaignez pas de prendre quelque chose dans la chaumière. Et nous vous remercions bien des fois, monsieur, d'avoir eu la bonté de penser à nous. » Monsieur Pleurniche, se croyant tenu en sa qualité de maître de maison, de témoigner également sa reconnaissance, eut recours à la formule par laquelle il exprimait toujours, dans une éloquence idéale, la sincérité de ses sentiments et le respect des convenances. « Jean-Édouard Naudy, » dit M. Pleurniche, s'adressant à son beau-père, « Monsieur, ce n'est pas tous les jours que vous voyez des actions généreuses, faites sans prétention et sans une ombre d'orgueil. Aussi, quand vous les voyez, honorez-les pareillement avec reconnaissance. Car si vous ne les honorez pas et que l'occasion vous échappe, on dira tant pis pour vous et à qui la faute. » M. Naudy répondit en ces termes au discours de son gendre. « Je suis tout à fait de ton avis, Thomas, et comme nous sommes tous deux du même avis, il n'y a pas besoin d'en dire davantage. Je ne cache pas mon opinion, et je te le déclare, oui, Thomas, oui, nos deux opinions doivent être celles de tout le monde unanimement. Car dès qu'il n'y a pas de différence d'opinion, il ne peut y avoir deux opinions, Non, Thomas, non. » Arthur, avec moins de cérémonie, dit qu'il était flatté de la façon dont on accueillait une attention aussi simple. Quant au thé, il expliqua qu'il n'avait pas encore dîné et qu'il allait tout droit chez lui pour se restaurer, après une longue journée de travail, sans quoi il eût volontiers accepté l'offre hospitalière de Madame Pleurniche. Comme M. Panks chauffait à grand bruit sa vapeur avant de prendre congé, Clennam lui demanda s'il voulait bien faire route avec lui. M. Panks ayant répondu que ce serait avec le plus grand plaisir, les deux visiteurs quittèrent ensemble l'heureuse chaumière. « Si vous vouliez bien pousser la complaisance jusqu'à m'accompagner chez moi, Panks, dit Arthur lorsqu'ils se trouvèrent dans la rue, et partager avec moi la fortune du pot, ce serait presque un acte de charité, car je suis là et je ne me sens pas du tout dans mon assiette ce soir. « Volontiers, répondit M. Panks, je regrette seulement que vous n'ayez pas un plus grand service que celui-là à me demander. Je vous le rendrai de bon cœur. » Il s'était établi entre Clennam et cet excentrique personnage un accord tacite qui était devenu de plus en plus sympathique depuis le soir où M. Panks avait joué à saute-mouton avec M. Rugg dans la cour de la prison. Le jour mémorable où la voiture avait emporté le doyen et sa famille, Panks et Clennam l'avaient suivi des yeux et s'étaient retirés ensemble. La première fois que la petite Dorrit avait donné de ses nouvelles, personne ne les avait écoutées avec plus d'intérêt que le remorqueur du patriarche. Dans sa seconde épître, que Clennam venait de serrer dans la poche de son habit, la jeune fille avait nommé M. Panks en toutes lettres. Quoique jamais elle n'eût fait aucune protestation à Clennam, et que ce qu'il venait de dire fût très simplement dit, Clennam se figurait depuis longtemps que M. Panks, dans ce qu'il était, commençait à avoir de l'amitié pour lui. Tous ces petits liens réunis faisaient ce soir-là de M. Panks un maître câble pour jeter l'ancre au repas en commun. « Je suis tout seul, » expliqua Arthur, tandis qu'ils cheminaient ensemble. « Mon associé est en voyage, occupé loin d'ici de cette partie de nos affaires qui le regarde spécialement, et vous pourrez vous mettre à votre aise. »« Merci. Vous n'avez pas remarqué Altro tout à l'heure ?» demanda M. Panks. « Non. Pourquoi cela ?»« C'est un garçon de belle humeur et que j'aime beaucoup, » répliqua Panks. « Mais il faut qu'il lui soit arrivé quelque chose qui l'ait démonté aujourd'hui. Savez-vous ce qui a pu le bouleverser comme ça ?»« Pas le moins du monde. Vous me surprenez. » M. Panks expliqua pourquoi il faisait cette question. Arthur fut fort étonné et tout à fait incapable de trouver la clé de cette énigme. « Vous feriez peut-être bien de le questionner, » dit Panks, « comme c'est un étranger dont vous ignorez les antécédents. »« À quel propos ?»« À propos de ce qu'il tourmente. »« Il faut que je m'assure avant tout s'il a vraiment quelque sujet d'inquiétude, » reprit Clennam. « Je l'ai toujours trouvé si laborieux, si reconnaissant, pour bien peu de choses, et si digne de confiance, que je ne veux pas avoir l'air de le soupçonner, ce qui serait très injuste. » « C'est vrai, mais dites donc, savez-vous que vous ne devriez être le propriétaire de personne, monsieur Clennam? Vous y mettez beaucoup trop de délicatesse. » « Quant à cela, répondit Clennam en riant, je suis bien loin d'être le propriétaire de Cavaletto. Il gagne sa vie à faire de petites sculptures sur bois. Il a les clés de la fabrique, il y couche toutes les deux nuits et en est en quelque sorte le gardien. Mais nous n'avons que peu d'ouvrages à lui donner dans sa partie, bien que nous lui réservions le peu que nous en avons. Non, je suis plutôt son mentor que son propriétaire. Si vous disiez que je suis son conseiller intime et son banquier, passe encore. Mais à propos de banquier, n'est-il pas étrange, Panks, que ces spéculations risquées dont tout le monde parle trottent aussi dans la tête de ce petit Cavaletto? Spéculations risquées? Riposta Panks avec un reniflement. « Quelle spéculation ?»« Ces spéculations de meurtre. »« Oh, ces placements. Bon, bon, je ne savais pas que vous parliez de placements. » La vivacité avec laquelle M. Panks venait de répondre fit tourner la tête à Clennam, qui crut s'apercevoir que Panks ne disait pas du tout ce qu'il en pensait. Cependant, comme celui-ci venait de hâter le pas, en reniflant plus laborieusement que jamais, Clennam laissa tomber la conversation et ils arrivèrent bientôt chez lui. Un dîner composé de soupe et d'un pâté aux pigeons, servi au coin du feu, sur une petite table ronde et arrosé d'une bouteille de bon vin, parut graisser agréablement les ressorts du remorqueur. Aussi, lorsque Clennam alla prendre sa pipe orientale et qu'il offrit une autre pipe non moins orientale à M. Pinks, ce gentleman parut tout à fait à son aise. Ils fumèrent pendant quelque temps en silence. M. Pinks était comme un petit vapeur favorisé par le vent, la marée, le calme et une foule d'autres avantages maritimes. Il fut le premier à ouvrir la bouche pour dire « Oui, placement est le vrai mot ». Clennam le regarda comme la première fois et se contenta de répondre « Ah !»« Je reviens à la charge, vous voyez ?» ajouta Pinks. « Oui, je vois que vous y revenez, » répondit Clennam, qui se demandait pourquoi Pinks tenait tant à son mot de « placement ». N'est-il pas étrange que ces idées-là trottent dans la tête du petit Altro, hein ? Continua Pinks tout en fumant. « Ce sont bien là vos paroles. »« Oui. Bon, mais si je vous disais qu'elles trottent dans la tête de tous les locataires de la cour ? Si je vous disais qu'ils n'ont pas autre chose à la bouche les jours où je vais toucher mes loyers ? Qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas, Myrtle, 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 toujours Myrtle. » C'est étonnant comme ce vertige-là gagne tout le monde, remarqua Clennam. N'est-ce pas ? Répliqua Pinks. Après avoir lancé quelques bouffées de fumée d'une façon plus sèche qu'on ne l'aurait cru après un dîner qui avait si bien graissé ses engrenages, il ajouta : Cela vous semble étrange, parce que ces gens n'y comprennent rien. Absolument rien. Absolument rien, répéta Pinks. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un chiffre. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que le crédit. Ils n'ont jamais fait un calcul. Ils ne sont pas à même d'examiner ces affaires à fond, monsieur. S'ils l'étaient, commençait à dire Clennam, lorsque M. Pinks, sans changer de visage, laissa échapper un bruit nasal ou bronchital qui dépassait tellement ses efforts habituels, qu'Arthur s'arrêta tout à coup. « Eh bien, s'ils étaient à même de les examiner, » répéta Pinks, attendant la suite. « Je croyais que vous parliez, » dit Arthur, ne sachant quel nom donner à son interruption nasale. « Pas du tout, » répondit Pinks, « pas encore. Il est possible que je parle dans un moment. Eh bien, s'ils étaient à même... » « S'ils étaient à même de les examiner, » remarqua Clennam, ne sachant trop comment le prendre, « ils n'auraient pas la sottise de céder à cet engouement. »« Comment cela, monsieur Clennam ?» demanda vivement Pinks, et d'une manière étrange, qui montrait bien que, depuis le commencement de l'entretien, il avait envie de mettre le feu à la bombe qu'il laissait éclater en ce moment. « Ils ont raison, vous savez. Ils ignorent pourquoi, mais cela n'empêche pas qu'au fond, ils ont raison. » Raison de partager l'envie que montra Cavaletto de spéculer avec M. Myrtle ?« Parfaitement, monsieur, » répondit Pinks. « J'ai examiné l'affaire. J'ai fait les calculs. J'ai tiré la chose au clair. C'est solide et positif. » Soulagé par cette déclaration, Pinks tira de sa pipe orientale une aussi longue bouffée que le lui permit l'état de ses poumons et regarda Clennam d'un air sagace et ferme tandis qu'il aspirait et exhalait la fumée. En ce moment, M. Pinks commençait à communiquer l'affection qu'il portait avec lui, car c'est comme cela que ces maladies se gagnent. Rien de plus subtil que la manière dont elle se propage. « Vous ne voulez pas dire, mon cher Pinks, » demanda Clennam d'un ton très grave, « que vous risqueriez 1000 livres sterling à vous, par exemple, dans des entreprises de ce genre ?»« Certainement si, » répondit Pinks. « C'est déjà fait, monsieur. » Pinks aspira une nouvelle bouffée de tabac aussi longue que la première, en exhala non moins lentement la fumée et lança encore à Clennam un long coup d'œil plein de sagacité avant de continuer. Je vous dis, monsieur Clennam, que je me suis embarqué là-dedans. C'est un homme d'une habileté surprenante. Il possède un capital énorme et l'appui du gouvernement. Il n'y a pas de meilleur placement. C'est aussi sûr que de la rente. Je vous avoue, répondit Clennam, regardant gravement son interlocuteur, puis regardant le feu avec non moins de gravité, que vous m'étonnez beaucoup. Bah, riposta Pinks, ne dites pas cela, monsieur. Vous devriez plutôt faire comme moi. Pourquoi ne feriez-vous pas comme moi ? M. Panks n'aurait pas été plus en état de dire de qui il avait gagné l'épidémie régnante que le premier fiévreux venu ne peut dire où il a attrapé la fièvre. Engendré ainsi que bien les maladies physiques par une prédisposition mauvaise, puis disséminé par l'ignorance, ces épidémies se communiquent ensuite, dans un temps donné, à des malheureux qui ne sont ni ignorants ni corrompus. Peut-être que Panks avait lui-même attrapé la maladie de quelques sujets de cette dernière classe, peut-être que non. Toujours est-il qu'il appartenait à cette catégorie quand il chercha à inoculer à Clennam la contagion et qu'elle n'en était pas moins virulente pour cela. Et vous avez déjà placé, Clennam avait fini par adopter ce mot, vos 1000 livres sterling, Panks ? Je crois bien, monsieur, répliqua Panks d'un ton plein de confiance en lançant une bouffée. Je n'ai qu'un regret, c'est que ce ne soit pas plutôt 2000. Or, un double sujet de préoccupation pesait lourdement ce soir-là sur l'esprit solitaire de Clennam. L'un était l'espoir si longtemps différé de son associé, l'autre ce qu'il avait vu et entendu chez sa mère. Grâce au soulagement qu'il trouvait dans la société de Panks et à la certitude qu'il avait de pouvoir se fier à lui, il passa à ces deux sujets qui, tous deux, le ramenèrent avec beaucoup de vitesse et de force au point de départ. La chose arriva de la façon la plus simple du monde. Laissant là M. Myrtle et ses spéculations, après avoir contemplé quelque temps le feu à travers la fumée de sa pipe, il raconta à Panks comment et pourquoi il avait une si rude besogne à démêler avec cette institution nationale qu'on nomme le ministère des circonlocutions. « Ça a été bien dur pour Doyce, et ce l'est encore », dit-il en terminant avec toute l'honnêteté et sympathique indignation que ce sujet réveillait en lui. « Bien dur, en effet, » répondit Panks. « Mais vous gérez pour lui, monsieur Clennam. Comment l'entendez-vous? C'est vous qui avez le placement des fonds. Oui, je les place de mon mieux. » « Placez-les mieux encore, monsieur. Récompensez-le de ses travaux et de ses nombreuses déceptions. Faites-le participer aux chances du moment. Ouvrier patient et préoccupé, il ne songerait jamais de lui-même à en profiter. Il compte sur vous pour cela. » « Je fais de mon mieux, Panks, » répondit Clennam un peu troublé. Quant à peser et à examiner à fond ces nouvelles entreprises dont je n'ai aucune expérience, je doute que je sois capable d'entreprendre cette tâche. Je me fais vieux. Vieux ? S'écria Panks. Ah ah ! Il y avait une intonation si sincère dans le merveilleux rire et dans la série de reniflements que cette idée venait d'exciter chez Panks, et dans l'énergie avec laquelle il la repoussait, qu'il n'y avait pas moyen de croire qu'il n'y alla pas bon jeu, bon argent. Vieux ? S'écria Panks. Allons donc. Vieux, par exemple. L'incrédulité obstinée qu'exprimaient les reniflements continus de Panks, accompagnés de ses exclamations, obligea Arthur de renoncer à lui faire accepter un seul instant cette idée. D'autant plus qu'il craignait qu'il n'arrivât quelque chose à Panks dans la lutte violente qui s'établissait entre l'air qu'il exhalait si énergiquement et la fumée qu'il aspirait avec une égale énergie. L'abandon de ce premier sujet le poussa à aborder le second. « Ou jeune, ou vieux, ou entre deux âges, Panks, reprit-il, profitant d'un silence favorable, je ne m'en trouve pas moins dans une situation d'esprit pleine d'inquiétude et de doute qui me fait craindre que rien de ce qui semble m'appartenir ne m'appartienne en effet. Vous confierai-je un grand secret ? Confiez, monsieur, si vous m'en croyez digne. Je vous en crois très digne. Vous avez raison. » La réponse vive et laconique de M. Panks, confirmé par le geste subi avec lequel il tendit à Clennam sa main de charbonnier, était aussi expressive que convaincante. Arthur secoua cordialement cette main. Alors, adoucissant la nature de ses anciennes craintes, autant qu'il le pouvait, sans courir le risque de ne pas se faire comprendre, mais évitant de jamais nommer sa mère, et parlant seulement d'une parente supposée, il donna à M. Panks une vague idée des appréhensions qui l'avaient inquiété et de l'entrevue à laquelle il avait assisté. M. Panks écouta ce récit avec tant d'intérêt qu'insensible au charme de la pipe orientale, il la posa sur le garde-cendre auprès des pelles et des pincettes. Uniquement occupé de relever les mèches et les épis de sa chevelure hérissée, si bien qu'à la fin de l'histoire, il avait tout l'air d'un Hamlet moderne en tête-à-tête avec le fantôme paternel. « Ça me ramène !» s'écria-t-il, touchant d'une façon si inattendue le genou de son hôte que celui-ci en tressaillit. « Ça me ramène, monsieur, à la question des placements. Je ne dirai rien de votre intention de vous appauvrir, le cas échéant, pour réparer un mal que vous n'avez pas fait. Je vous reconnais bien là. On ne peut pas forcer un homme à agir contre sa nature. Mais voici ce que je veux vous dire. Dans la crainte que vous n'ayez besoin d'argent, pour sauver les vôtres de la honte ou du déshonneur, amassez-en le plus possible. » Arthur secoua la tête, mais il regardait son interlocuteur d'un air rêveur. « Devenez aussi riche que vous le pourrez, monsieur, » reprit Pinks, concentrant toute son énergie pour donner plus de force à cette adjuration. « Devenez aussi riche que vous le pouvez honnêtement. C'est votre devoir, non par égoïsme, mais en vue des autres. Saisissez l'occasion aux cheveux. Ce pauvre monsieur Doyce, qui, lui, commence vraiment à vieillir, compte sur vous. Votre parente compte sur vous. Vous ne savez pas ce qu'on peut avoir à vous demander plus tard. « Allons, allons, » répondit Arthur. « En voilà assez pour ce soir. » « Encore un mot, monsieur Clennam, et puis nous n'en reparlerons plus. Pourquoi laisser tous les profits aux goulus, aux fripons et aux imposteurs ? Pourquoi abandonner des profits certains à mon propriétaire et à ceux qui lui ressemblent ? C'est pourtant ce que vous faites tous les jours. Quand je dis « vous », j'entends les gens comme vous. Vous ne pouvez pas nier le fait. Il se renouvelle chaque jour sous mes yeux. Je ne vois que cela. C'est mon métier de voir ces choses-là. Ainsi donc, je vous le répète, prenez un billet pour gagner le gros lot. Oui, mais si j'allais prendre un billet pour perdre ? Impossible, monsieur, répondit Pinks. J'ai approfondi la chose. Un nom estimé partout, une habileté incroyable, des capitaux immenses, une position élevée, des alliances avec ce qu'il y a de plus haut, l'appui du gouvernement. Impossible de perdre. Après cet exposé final de la situation, M. Pinks se calma peu à peu, permit à ses cheveux rebelles de prendre une position aussi peu perpendiculaire que cela leur était possible, retira sa pipe du garde-cendre, la bourra de nouveau et la fuma. Ils ne se parlèrent plus guère. Mais ils ne s'en tenaient pas moins compagnie, poursuivant en silence le même sujet de réflexion. Ils ne se quittèrent qu'à minuit. M. Pinks, prenant congé de Clennam, et après lui avoir donné une poignée de main, circula tout autour de lui en ronflant avant de franchir le seuil de la chambre. Arthur comprit que cela voulait dire qu'il pouvait compter implicitement sur Pinks dans le cas où il aurait besoin de lui, soit à propos des deux incidents dont il venait de causer, soit pour tout autre objet. Le lendemain, à divers intervalles, et même tandis que sa pensée était autrement occupée, Clennam en revint à penser à la façon dont Pinks avait placé ses 1000 livres sterling et aux entreprises qu'il avait approfondies. Il se rappela que M. Pinks se montrait plein de confiance à cet égard, lui qui d'habitude ne péchait pas par trop de confiance. Il songea au grand ministère des circonlocutions et au bonheur qu'il aurait à améliorer la position de Doyce. Il songea à la sombre et menaçante demeure où il avait vécu enfant et aux ombres qui s'y amoncelaient, plus menaçantes que jamais. Il remarqua de nouveau que, partout où il allait, il voyait, entendait ou palpait le fameux nom de Myrtle. Il ne pouvait guère rester 2 heures seulement devant son bureau sans que ce nom fût présenté à ses sens physiques par l'entremise de quelques maisons de commerce. Il commença à penser qu'il était étrange que ce nom se trouvât partout sans que personne, excepté lui, parût s'en méfier. Ou plutôt, il ne pouvait pas dire, pour sa part, qu'il s'en fût jamais méfié. Il s'était contenté de se tenir à l'écart. De tels symptômes, lorsqu'une épidémie de ce genre court les rues, annoncent presque toujours qu'on a gagné la maladie.